auberge de la Fosse Artour. Un dimanche de septembre. En ce dimanche, de fin septembre, la météo se prêtait tout à loisir à une promenade dominicale. La petite famille décida donc d'aller faire un tour pour s'aérer, du côté de Saint-Georges-de-Roualet, plus précisément, à la Fosse Artour, lieu de promenade idéal s'il en est. Au détour d'une route de campagne, s'engageant dans une voie sans issue, bien connue de monsieur pour y avoir, en d'autres temps, effectué la distribution du courrier, mais aussi destination de balades bucoliques au printemps et en été, ramassage de châtaignes en automne, simple promenade du dimanche en hiver, que ce fut autour de l'étang ou le long de la rivière, traversant sous-bois et chemins torturés, il n'en fallait pas plus pour que notre petite famille succombe à ce lieu pour célébrer l'anniversaire de ce jour où, il y a déjà 20 ans, madames et messieurs se dirent oui. Certes, ce ne serait pas un anniversaire en grande pompe, mais pour la petite famille, le bonheur ne se résume pas au montant que peut lâcher la carte bancaire. Se retrouver tous les trois dans un lieu paisible, en harmonie avec la sérénité de cette belle campagne normande, suffisait à combler cette idée de bonheur qu'ils partageaient depuis ces deux dernières décennies. Monsieur s'était bien gardé de dévoiler à madame qu'il avait réservé à l'auberge de la Fosse Artour, tout récemment reprise par une enfant du pays, après un bien triste abandon de plus de 5 ans. Attardons-nous sur l'histoire de l'auberge. Monsieur avait connu cette auberge du temps des anciens propriétaires qu'il atteint durant près de 40 ans. Puis l'auberge vendue, les nouveaux acheteurs avaient abandonné celle-ci, reprise un temps par les précédents propriétaires, qui tentèrent de la faire revivre et retrouver ses années flamboyantes, mais quand on a passé sa vie derrière le comptoir, le bar et les fourneaux, on aspire à une retraite bien méritée. L'auberge fut à nouveau revendue. Hélas, une fois de plus, elle fut abandonnée. Triste destin que cet établissement. Située en un endroit qui pousse à la promenade, à l'apaisement, elle serait donc vouée à jamais à terminer sa vie en une bâtisse sans avenir. Une enfant de la commune en décida autrement. Elle redonna vie à cette vieille dame, avec les travaux, le confinement, enfin, l'auberge de la Fosse Artour revit. Et c'est donc en ce lieu, qui tel le phénix renaissant de ses cendres, que monsieur avait décidé d'allier un anniversaire précieux à son cœur, à cette auberge qui, malgré les capitulations, était toujours debout. Premier contact. La voiture garée, la petite famille s'engage en direction de l'auberge. C'est une bâtisse qui ressemble à une habitation, en pierre. Elle semble donner l'impression que l'on se rend chez des amis. Elle ne reflète pas le caractère pompeux de certains établissements. Au-dessus de l'entrée, comme un balcon où trône auberge de la Fosse Artour, passage au flacon de gel hydroalcoolique, masque en bonne position, Covid oblige, la petite famille est accueillie par la maîtresse des lieux. Bonjour. Bonjour. J'ai réservé. Oui, je vous accompagne. Passé l'entrée, on fut face au bar. Sur la droite, les cuisines. À gauche, la salle. Les tables sont assez éloignées les unes des autres, comme c'est la règle en cette période difficile. La salle est claire, rafraîchissante. Les tons clairs dominent, une sensation de légèreté se dégage du décor, tout en laissant poindre les signes de la rusticité des lieux. Il y règne une atmosphère de calme et de fraîcheur. Sur la droite, de grandes baies vitrées donnent sur une terrasse et la rivière, tout en invitant la lumière à inonder la salle. La carte. Notre guide nous précède, ne manque pas d'attirer notre attention sur une petite marche quasi invisible qu'il serait dommage de louper. Puis il nous suggère la table qui sera la nôtre pour une partie de cette journée. L'attente ne sera que de courte durée avant que nous soit remis la carte. Nous commandons un apéritif, la journée était presque exceptionnelle. Nous débuterons par un whisky, Clan Campbell pour ne pas le nommer. Le fiston optera, comme à son habitude, pour un jus d'orange sans bulle et sans pulpe. Menu en main, nous argumentons entre nous à l'énumération des entrées, des plats, des desserts. Riche, sans être surchargé, la carte annonce une cuisine de type bistrot. Composée de 4 entrées, 6 plats et 4 desserts, la carte est bien pourvue. 3 menus s'unissent à la carte afin de procurer aux indécis une suggestion de choix qui ne saurait pas faire. Aux entrées, le carpaccio de saumon au copeaux de parmesan, jalouse le caviar d'aubergine aux herbes fraîches, crème de basalmic, le foie gras de canard, mi-cuit, nargue sans retenue la rosace de tomate ancienne qui appelle au souvenir du soleil, du sud, par son huile d'olive parfumée, pistou et mozzarella di bufala. Au plat, nous avons ces demoiselles, les queues d'écrevisse taille, au curry avec leur riz noir qui concourent face au tronçon de l'autre rôti, compoté de piquillot, de poivron rouge, mais jus de poisson au pistil de safran, également accompagné d'un riz noir. Le pavé de filet de bœuf, sauce du moment, brave sans retenue avec ses frites maison le filet de canard rôti et sa réduction d'orange parfumée à la vanille, escortée par une mousseline de patates douces. Les desserts se déclinent en quatre parfums, la vanille, le chocolat, le citron et la fraise. La vanille se voit présentée par une crème brûlée au sucre cassonade. Le chocolat par un mi-cuit au chocolat noir, cœur coulant, coulis de fruits et sa boule de sorbet. Le citron yuzu se traduira par un biscuit aux zestes de citron et au miel, mini meringue, coulis de fruits rouges et sa boule de sorbet mangue. Et enfin, la fraise nous conviera à déguster un tartare de fraises, crumble aux amandes, coulis de fraises, chantilly et sucre pétillant. Les menus s'agrémentent de quelques autres mets non moins appétissants. Filet de Saint-Pierre, réduction de jus d'orange, romarin et vanille, noisettes d'agneau en croûte d'herbe, jus au thym et romarin, fricassé de champignons et mousseline de pommes de terre à l'ail, effiloché de raies, sauce au blanc de poireau, pavé de lieu jaune, riz noir vénéré, sauce au blanc de poireau, crémeux de champignons, œufs mollets, jambon fumé, copeaux de parmesan et jeunes pousses, tataki de thon albacore au saté, je pense que c'est saké, j'ai dû... Jeunes pousses du moment et légumes croquants. Dos de merlu, sauce à l'oseille, riz pilaf. Suprême de volaille, sauce forestière. Joues de bœuf confites au vin rouge. Écrasé de pommes de terre. Risotto aux crevettes et au chorizo. Copeaux de parmesan. Fricassé d'escargots et de champignons au beurre persillé. À l'ail, crème de camembert au pommeau. Le choix. Il est cornélien. À la lecture de la carte, nous salivons de gourmandise. Pas une entrée, pas un plat, pas un dessert ne saurait s'opposer à notre envie de le dévorer. Certes, il est bien quelques mets qui ne correspondent pas dans l'exactitude à nos goûts, mais pour autant, ils nous attirent, nous laissent pressentir le ravissement de nos papilles. Les minutes s'écoulent, il nous faut nous décider. Le choix, bien que difficile, est finalement arrêté. Pour Madame et le fiston, ce sera foie gras de canard mi-cuit, jeune pousse du moment, en vinaigrette de mangue, à la coriandre et son petit pain au lait tiède. Pour Monsieur, carpaccio de saumon, marinade d'huile d'olive et de jus de citron, copeaux de parmesan. Les plats seront ainsi répartis. Madame optera pour un filet de canard rôti, réduction d'orange parfumée à la gousse de vanille et romarin, mousseline de patates douces. Le jeune homme jettera son dévolu sur un pavé de faux filet de bœuf, sauce du moment et frites maison. Quant à monsieur, il poursuivra son excursion maritime avec des queues de crevettes taille au curry, curcuma, citronnelle, gingembre, coriandre, piment, sauce soja et riz noir vénéré. La chose sucrée s'attardera à un mi-cuit au chocolat noir, cœur coulant, coulis de fruits et sa boule de sorbet pour madame et le fiston. Monsieur fera trembler son palais avec un biscuit aux zestes de citron et au miel, mini meringue, coulis de fruits rouges et sa boule de sorbet mangue. Il ne saurait y avoir de bon repas sans un bon vin. Un cabernet d'Anjou sera à même de nous escorter tout au long de notre périple gustatif. Dégustons, dégustons, dégustons. Une jeune serveuse que la maîtresse des lieux nous avait présentée en nous installant vint prendre notre commande. Sans la moindre hésitation, elle répondit à chacune de nos questions. La prise de commande effectuée, je me levai et me dirigeai vers le bar où se tenait peut-être le patron, mais aussi la patronne qui nous avait accueillis. Je lui demandai si nous pouvions prendre en photo nos plats. Je pense que c'est la moindre des choses que de demander au propriétaire des lieux si le fait de prendre en photo nos plats ne le dérange pas. C'est une marque de respect envers le travail effectué. Elle me répond par l'affirmative, je retourne donc rejoindre ma table. Les entrées arrivent. Je ne saurais traduire les sensations de madame et du fiston pour ce qui est de leurs plats respectifs. Je vais donc m'attarder sur les miens. Cependant, il est un point que je suis en mesure d'exprimer ici, c'est la vision des plats, mais aussi, pour certains, l'odeur qui en émane. Le foie gras se présente en un disque posé sur la tranche. De bonne épaisseur, sa couleur exprime avec justesse la qualité du produit, mais aussi la précision de la cuisson. Un petit pain bien dodu étale sa fierté d'accompagner le foie gras. Des copeaux de mangue confits, délicatement posés à côté du petit pain, se couvrent à peine d'une jeune pousse de verdure. Pour ma part, ayant jeté mon dévolu sur un carpaccio de saumon, je dévorais du regard mon assiette. Les fines tranches de saumon en masquaient le fond. Des copeaux de parmesan translucide masquaient avec subtilité le rose du noble poisson, sans pour autant en dissimuler l'entièreté. Doucement, je glissais ma fourchette sous une portion de saumon, ramenais avec mon couteau un ou deux copeaux de parmesan et portais le tout en bouche. Dès le premier contact avec mon palais, je sentis les sucs l'envahir. Je ressentais le fumet du poisson, un petit goût boisé, l'acidité du citron qui se laissait adoucir par un léger filet d'huile d'olive, enfin la rusticité du parmesan. J'étais comblé. Le saumon fondait quand le parmesan apportait une infime sensation de fermeté. Le silence à notre table était pesant. La dégustation était à son apogée. Les mots ne serviraient à rien. Il fallait laisser les sensations gustatives s'exprimer. Les hors-d'œuvre devinrent qu'un souvenir. Mais quel souvenir ! L'estomac avait été invité à se délecter de ce qu'on lui offrait. Il était donc nécessaire de poursuivre dans cette démarche. Vint alors le temps des plats dits de résistance. Le fiston reçut avec des yeux brillants son pavé de faux filets de bœuf et frites maison, la sauce du moment enrobée de sa couleur brune et brillante, la pièce de viande qui se dessinait en une forme cylindrique presque parfaite dont l'épaisseur aurait fait saliver le moindre carnassier. Les frites s'enchevêtraient dans un chaos invitant à la gourmandise. Elle semblait à la fois légère et pleine. La furtivité avec laquelle le plat disparut me laisse à croire que ce fut un régal pour le jeune homme. Madame, qui avait opté pour un filet de canard rôti, contempla son assiette comme un bijou que l'on ose toucher. Quelques tranches de magret rangées en éventail musardaient sur un lit de mousseline de patates douces dont la couleur orangée ensoleillait le plat. Le rosé du magret me faisait saliver d'envie. Je me devais de retenir mon appétence. Les assiettes étaient bien garnies, il serait peu probable que l'on ressortirait du restaurant avec la faim qui nous tenaillerait. Pour ma part, j'avais jeté mon dévolu sur des queues de crevettes taille au curry avec un riz noir. On m'apporta un plat rectangulaire sur lequel se tenaient deux bols. L'un où la couleur orange, presque jaune, dominait, l'autre où un noir profond comme de l'encre contrastait avec son homologue. Dès que ma commande fut posée devant moi, je pus percevoir le fumet des crevettes fusionnant avec les épices, telle une danse à la sensualité presque gênante. Le riz noir, seul dans son bol, surveillait cette débauche d'effluve avec la ferme intention de se rattraper sur le goût. Je me mis donc en œuvre pour déguster ce plat qui n'aurait toléré la moindre attente de se faire dévorer. La cuillère plongea dans le bol de crevettes, j'en sortis une qui avait presque la taille d'un palais breton. La sauce lustrait cette dernière. Sitôt la cuillère en bouche, ce fut un feu d'artifice de saveurs. Curry, coriandre, gingembre, citronnelle, piment, soja. Chacun usait des coudes pour dominer l'explosion tour à tour. Chaque épice dépassait les autres, puis laissait sa place à l'une de ses congénères, en une ronde folle. Le croquant de la crevette me rappela à la délicatesse de ce petit crustacé, encore que petit, ne fût-ce pas le terme approprié pour celle-ci et ses sœurs, qui toutes ignoraient, semble-t-il, ce que signifiait le terme de régime. J'avoue avoir pensé qu'elles étaient à la limite de l'obésité, tant elles étaient grosses. Je ne devais pas laisser le riz noir dans son coin, et en dégusta dans la foulée deux fourchettes bien remplies. Il était à la hauteur du reste du plat, cuisson parfaite, à la fois ferme mais non cassant, saveur subtile mais pas envahissante. Sans mot dire, je pris le temps nécessaire pour ne laisser aucune chance à mon plat de s'en sortir. Il se devait d'être honoré en n'en laissant aucune miette, ce qui fut fait. Puis vint l'instant sucré. Pour Madame Elfiston, qui avait préféré le mi-cu au chocolat noir, ils obtinrent une assiette composée de la sorte. Un gâteau tout rond, de couleur brune accentuée. qu'accompagnait une belle boule toute ronde de sorbet orange. De la mangue, sans nul doute. Au centre de l'assiette, séparant, telle une frontière, les deux éléments principaux, quelques gouttes savamment déposées de coulis rouge. Léger mais pas pingre, le dessert appelait à être dégusté sans retenue. Ayant opté pour un citron yuzu, je reçus mon assiette comme un décor floral. En effet, mon dessert ressemblait à une fleur. Dans le fond, le biscuit moulé à la poche. Surmonté d'une boule de sorbet, tout autour du biscuit, comme en équilibre, cinq meringues à égale distance les unes des autres, à la blancheur immaculée. Pour achever le tableau, trois immenses virgules de coulis cerclaient le délice. Je ne pus retenir mon désir de briser l'équilibre de mon dessert, et c'est donc sans hésitation que je plantai ma cuillère dans la boule de sorbet, ramassa au passage un morceau de biscuit, pour finir par kidnapper une de ces petites meringues. La douceur et la fraîcheur du sorbet contrastaient avec la très légère acidité du biscuit au citron et miel. La meringue éclata en d'innombrables morceaux, se mélangeant aux autres éléments du dessert, créant ainsi le croquant qui manquait. Chacun avait à cœur de s'occuper de son dessert. De temps à autre, un regard furtif sur celui de son voisin valait-il la peine de le jalouser, ce qu'avait l'autre? Je ne le crois pas. Nous achevâmes notre festin par un café, escorté d'un digestif pomme-vanille pour madame, pomme-caramel pour monsieur. En conclusion, comment pourrions-nous restituer notre perception de cet établissement? En comparaison à ce qu'il était devenu en quelques années, je dois avouer que la surprise fut de taille. L'accueil exhalait comme un sentiment d'être attendu, accueilli comme l'ami que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Bien sûr, ce n'est qu'un ressenti, mais cela est agréable de remarquer qu'on ne vous accueille pas comme le client qui n'est là que pour lâcher des euros. On peut percevoir combien la nouvelle propriétaire des lieux est fière du travail accompli dans la renaissance de cet établissement qui, je le rappelle, semblait voué à l'oubli. Il ne serait pas honnête de ma part de dire que tout était parfait. Mais nous n'en étions pas très loin. J'émettrai cependant un petit bémol. La résonance de la salle, toutefois l'ayant indiqué à la patronne lors du règlement de l'addition pas très excessive au demeurant, cette dernière me précisa que des tentures allaient être bientôt installées pour atténuer suffisamment la réverbération pour être en mesure de déjeuner sans souffrir du bruit ambiant. Allons digérer. Étant repus, nous décidâmes de faciliter notre digestion par une promenade autour du lac, situé un peu plus haut. C'est donc d'un pas tranquille mais alerte, la panse bien remplie, que nous partîmes pour cette petite promenade d'une heure environ, satisfaits et heureux d'avoir eu cet honneur de redécouvrir cette auberge qui, nous l'espérons, vivra encore longtemps pour satisfaire les gastronomes, qu'ils fussent experts ou non. Et c'est ainsi que la petite famille termina ce dimanche si particulier, où seul le bonheur d'un repas accompagné d'une promenade champêtre tout simple suffisait à remplir leur cœur de ces petites choses toutes simples qui font l'essence de la vie.